les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Depuis la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, on redécouvre la Grèce dans le pays européen par les récits de voyages et par une certaine nostalgie pour l'Antiquité dans certains milieux, notamment les milieux lettrés. Au début du XIXe siècle, ce sentiment et cet attrait donnent naissance au philhellénisme et en quelques années, l'implication des Européens devient très concrète. Il faut aider la nation grecque à s'affranchir de la domination ottomane. C'est un enjeu de civilisation, dit-on, dans les capitales européennes, même si, on le verra, certains fantasmes sur la culture millénaire de la Grèce seront plus tard à l'origine de certains malentendus. Toute une génération d'intellectuels ou d'aventuriers s'engage pour la cause de la révolution grecque à partir de 1821. Ce mouvement conduit un certain Lord Byron à venir mourir à Missolonghi pendant le siège de la ville par les troupes ottomanes. Qu'allait-on chercher à l'époque dans ces expéditions où l'on jouait sa vie? Un idéal d'héroïsme peut-être, ou alors une cause à laquelle sacrifier sa vie? Écoutez ce qu'en disait diplomate et homme de lettres dans cette émission de 1947, Les États-Unis de l'esprit, voici passer l'âme de la Grèce.
Les États-Unis de l'esprit.
Si toutes les filles du monde vous laissent donner la main, tout autour de la mer elles le pourraient faire une ronde. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins, ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde si tous les gens du monde vous laissent donner la main.
Sur la scène du monde,
voici passer l'âme de la Grèce. Il n'est pas nécessaire d'avoir été en Grèce pour s'émerveiller des splendeurs de l'âme grecque.
Il faut peut-être y avoir été. Il faut avoir senti sur la terre qu'il a formée sa présence quasi divine pour comprendre à jamais que nulle parole au monde ne peut la célébrer dignement, que rien ne saurait en donner la mesure.
Si prodigieuse elle a été qu'il semble bien que l'humanité soit née une seconde fois avec elle.
Nous allons l'évoquer, mais en tremblant, avec la claire conscience de notre infirmité. Quel mot pourrait-on inventer pour exprimer les choses éternelles?
Le seul recours, c'est de plonger dans le trésor qu'elle a laissé et qui s'enrichit tous les jours, et de regarder en nous-mêmes pour y reconnaître ce qui vient d'elle et qui est devenu de la vie, du sang, des idées, des images et de la force.
Pour cela, nous avons fait appel à des hellénistes éminents, bienheureux hommes que leurs travaux tiennent en contact quotidien avec la pensée grecque. Écoutez tout d'abord M. Raphaël, ambassadeur de Grèce à Paris.
Tous les peuples qui ont vécu sur Terre ont contribué, chacun dans la mesure de ses aptitudes et de son génie, à la formation du grand patrimoine de la civilisation. Sur la table des valeurs humaines, chaque peuple a inscrit le nom de sa propre vérité. Dans ce domaine, il n'y a point d'absent. Et lorsqu'on parle des uns, on n'oublie pas les autres. Cependant, comme il s'agit aujourd'hui de dire ce que la Grèce a apporté au monde, qu'il me soit permis de formuler en peu de mots ce que je considère être l'expression la plus frappante du peuple grec et de son histoire. Je pense que rien ne saurait exprimer mieux l'esprit, le caractère et l'attitude morale de la Grèce que le mot « résistance », dans tout ce que ce mot comporte de volonté, d'héroïsme et de lent créateur. En dépit du fait que parfois il a été fait de ce mot un emploi abusif, on ne doit pas oublier que de nos jours il fut consacré par le sacrifice de tous ceux qui ont voulu rompre les chaînes de l'esclavage et qui ont lutté pour la liberté. Depuis près de 3 millénaires, le peuple grec fait de la résistance. Une résistance qui est de toutes les résistances, qui résume tous les courages et conserve malgré tout et contre tout tous les espoirs. Fixé sur un rocher aride, le peuple grec résiste à la pauvreté, aux besoins matériels, à la faim. Sa vie est une lutte quotidienne, âpre, dure sans merci. Mais il se survit, il résiste. Situé au carrefour de grands courants historiques, la Grèce résiste aux invasions les plus mortelles. Marathon, Thermopyle, Salamis, Platée, Chéronée. Puis vient Byzance, son apogée et sa chute. Succèdent 4 siècles d'esclavage sous le joug turc et la guerre d'indépendance de 1821 qui dura 7 ans. Hier encore, la Grèce s'offrit un holocauste pour résister aux invasions italiennes, allemandes et bulgares. Une résistance qui dure pendant plus de 2500 ans et qui est jalonnée de victoires et de défaites. Mais comme disait Démosthène aux Athéniens après qu'ils eussent perdu la bataille de Chéronée, il y a 2 défaites qui valent mieux que 2 victoires. En effet, résister sans espoir, c'est 2 fois résister. Depuis Pisistrate, le climat de la Grèce n'a jamais porté bonheur aux tyrans. Les despotes périssent et leur tyrannie est frappée d'impuissance. L'esprit d'indépendance du peuple grec résiste à la règle uniforme de la violence. Chaque individu est une volonté originale insoumise, un monde fermé aux disciplines du nombre et de la force brutale. Chaque conscience oppose une barrière infranchissable à l'oppression. L'individualisme grec a constitué la défense la plus efficace de la nation. Il fut le dernier rempart de la liberté humaine, toutes les fois que cette liberté était traquée, pourchassée, supprimée par les envahisseurs du territoire. Les Grecs ne feront jamais troupeau. Ils forment un élément psychologique antitotalitaire. Depuis qu'il existe, le peuple grec résiste à l'injustice. Il se révolte même contre le destin, toutes les fois que ce destin est injuste. Édipe est le symbole de cette attitude tragique. Socrate enseignait qu'il est préférable d'être victime plutôt qu'auteur d'une injustice. Au cours de sa longue histoire, la Grèce se rangea résolument du côté des victimes et contre les bourreaux. Des événements tout récents et présents à la mémoire de tous le prouvent. La Grèce, en tant qu'idée, en tant qu'élan libérateur, résiste à la pesanteur de la matière. La beauté de son paysage est faite de lumière. Une lumière pénétrante et légère qui opère sur les formes comme un élément de dématérialisation. De même, l'âme du peuple grec est éclairée par un idéalisme profond. C'est à cet idéalisme qu'il n'a jamais cessé de sacrifier le côté matériel de l'existence. Je pense ne pouvoir mieux résumer la résistance totale du peuple grec dans tous les domaines qu'en disant que ce que la Grèce a apporté au monde, c'est avant tout une conception héroïque de la vie.
Étonnerez-vous que M. Apostolis, écrivain grec, journaliste français, soit amoureux de son pays et qu'il en parle avec la débordante ferveur propre à l'amour?
C'était un soir, au temps d'avant le cataclysme. J'avais prié Paul Valéry de me dire ce que, selon lui, la Grèce avait apporté d'essentiel au monde. Et le poète de Narcisse, sans hésiter.
Je suis parmi les gens qui n'ont jamais été en Grèce. Mais je sais que cette Grèce est au moins aussi nombreuse que la Grèce réelle. Car c'est une des grandes gloires de la Grèce que cette assimilation qu'on peut en faire avec la nature. Et c'est qu'il y a autant de Grèce qu'il y a de générations. Comme pour la nature, il y a tous les 50, tous les 100 ans, une découverte d'un sens nouveau pour tout ce qui est grec. En somme, la Grèce représente, comme la nature, une sorte de thème, de joyau absolument indéfini, sur lequel on peut broder indéfiniment des interprétations et tirer toujours des richesses nouvelles. Ainsi, nous nous trouvons devant une quantité innombrable de Grèce. C'est là la gloire la plus grande. celle qui consiste à être susceptible d'une infinité d'interprétations toutes exactes.
Et le poète de conclure.
Mais voici que la Grèce est pour moi un pays imaginaire. Et comme tel, il consiste à considérer a priori ce que j'appellerais la pureté. C'est-à-dire cette règle, cette méthode de pensée qui consiste à définir exactement les moyens dont on doit se servir pour arriver à construire en toute lucidité l'œuvre de philosophie, d'art ou de science que l'on s'est proposée.
Ce que nous avons demandé à Paul Valéry, on le demandera toujours, chaque fois qu'on pense à la Grèce et au monde. Certes, le monde existait bien avant que la Grèce ne se formât en peuple. Mais c'est bien depuis l'épanouissement de ce peuple que le monde européen, a pu prendre forme et se mesurer à la hauteur humaine. L'art aussi existait avant l'art grec dans d'autres pays de la Méditerranée. Mais c'est avec l'art de la Grèce que commence l'art humain. La Grèce a apporté au monde l'image de l'homme. Ce que la Grèce avait apporté au monde, c'est ce qu'elle avait recherché pour elle-même. Utiliser sa main qui modèle comme signe des supériorités créatrices face à l'animal, face à la nature. Mais tout modèle a trouvé sa perfection entre les mains et la pensée grecque. C'est en Grèce que l'on a pour la première fois entendu par Ménandre la voix de l'homme proclamant que
« Homme, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. »
Mais il y a encore un autre don que le monde a reçu et pour la première fois de la Grèce, la liberté, et ce que la liberté représente pour l'homme. Le grec savait déjà, par son Homère, que
le jour où l'homme a été saisi par l'esclavage est le jour où il a perdu la moitié de sa vertu.
Plus complet, et comme tel, plus exigeant que l'homme homérique, le grec du 5e siècle, face aux événements de son temps, qui menaçaient sa cité et sa personne, leur a répondu. Non, sans liberté, aucune vertu n'est possible. Et voici Marathon, et voici Salamine. Deux messages destinés au monde pour toujours. Et puis, le Perse d'Achille, poète et combattant, qui est l'expression stylisée de ces deux messages pour la première fois annoncés dans l'histoire de l'humanité.
Où donc est située cette ville d'Athènes ?
Demande la vieille reine de Perse, angoissée devant le désastre des armées de son fils.
Ces soldats sont-ils si nombreux ? Qui les conduit ? Qui est leur maître ?
Et le message de l'armée, de fait, de répondre.
Ils combattent de pied ferme et ne sont esclaves ni sujets de personne.
Et plus grave encore, et plus décisif, le spectre du vieux Darius ajoute.
Nul mortel ne doit nourrir de pensée au-dessus de sa condition humaine.
Condition humaine des mortels. Ainsi, par Achille, nous sommes amenés à voir dans tout cet acte humain le reflet d'une loi profonde, le symbole de quelque chose d'éternel. Thucydide, après Achille, nous l'a bien confirmé.
Résister à une force écrasante est pure folie. Mais écraser contre le droit et la justice une petite armée par la seule supériorité du nombre est aussi une autre folie qui attire le châtiment.
Et Euripide nous a dit pourquoi ?
Parce qu'il existe une justice immanente qui marche à travers les espaces silencieux.
C'est pourquoi Athènes, elle aussi, après avoir appliqué contre la petite armée de Mélos les principes mêmes contre lesquels avait combattu les Perses à Marathon, a dû subir les conséquences de ses excès et le désastre de Sicile, et dans la même guerre. Par son mépris des faibles et de leurs droits, Athènes devait fatalement se heurter au seuil des reins de la justice divine.
Les Perses, Marathon, Salamine, les faibles et les forts, démesures et désastres, mépris du droit et châtiment, Athènes, Grèce.
Sommes-nous vraiment si loin de ces temps, de notre temps ?
Mais voici la démocratie. Autre message que la Grèce, entre l'Orient et l'Occident, adresse au monde. C'est Aristote qui nous dit.
La meilleure constitution est celle dont le jeu permet à chacun les meilleures chances de succès et la vie la plus heureuse.
Et notre philosophe de compléter.
La démocratie ne s'entend qu'avec la liberté. Voici le régime des hommes libres.
Après les idées, voici les visages et voici les êtres. Antigone, qui face à la violence et à l'injustice, lance au prix de sa vie son grand cri.
Je suis faite pour l'amour et non pour la haine.
Mais tu as offensé la loi écrite.
Au-dessus de ta loi, il y a la loi non écrite. Et Polynice est mon frère.
Et après Antigone, Iphigénie. Iphigénie offrant sa vie, sa jeunesse, son corps à la Grèce, parce qu'il lui plaît de s'offrir pour que les vents s'élèvent favorables aux voiles grecques. De la victoire que sa mort assure à son pays, Iphigénie se compose un bonheur de femme à serrer dans ses bras.
Vos victoires sont mes noces, mes enfants, ma gloire.
Et puis, Clytemnestre, la reine du maître, qui du fond de sa tombe de Mycène nous lance son éternel avertissement.
Souviens-toi qu'il n'y a pas que l'aller, il n'y a pas que la victoire, il y a aussi le retour. Quelque malheur soudain, né de la colère des morts, pourrait bien se lever pour toi qui pille ce que tu devrais respecter.
Il n'y a pas que l'aller, il y a aussi le retour. Au reste, pour venger son père, tu auras sa mère. Mais la vengeance ne purifie pas l'atmosphère. Et on se demande...
N'existe-t-il pas d'autre solution? Les crimes vont-ils se succéder sans cesse à chaque génération? Et un fils d'Oreste devra-t-il à son tour venger Clytemnestre?
La réponse nous vient encore de la Grèce, que par le génie d'Eschyle offre à la réflexion du monde les Héménides qui trouvent l'écho le plus pur dans le cœur et l'esprit de Jean Jaurès.
Je ne pouvais, en relisant l'Orestie d'Eschyle avec une admiration passionnée, me défendre de la pensée que l'antique fatalité des représailles continuait aujourd'hui sous d'autres formes. Il y a une Orestie des nations qui venge à l'infini la violence par la violence et qui emplisse toute et vide tour à tour la coupe de sang. Quand viendra l'Athéna nouvelle qui rompra le cercle maudit en créant l'aéropage des peuples?
N'est-il pas vrai qu'à travers l'espace et le siècle, les esprits se rejoignent?
Dis-moi, mon hôte, mon ami, pourquoi ces pleurs? Ne sais-tu pas que si les dieux ont semé la mort pour tant d'humains, c'est pour fournir des chants et des leçons aux gens de l'avenir?
C'est la vision du monde qu'Homère offre aux hommes sortant de guerre et aspirant à la paix.
Et le théâtre grec, qui pourrait, même en raccourci, l'évoquer mieux que notre grand helléniste Braque des Rousseaux.
Tragédiante, comédiante, ici accolés dans une sourde exclamation historiquement célèbre, deux noms, la tragédie, la comédie, qui sent la naissance et l'évolution du théâtre dans l'Athènes des 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ, ne serait pas fixé dans toutes les littératures de la civilisation moderne. Pas seulement deux noms, deux notions de genre dramatique, parfois rapprochées, parfois opposées, même si, comme Platon le philosophe l'avait déjà prévu possible, un même génie les a cultivés ensemble ou tour à tour. Drame, d'ailleurs, est également un mot grec caractéristique. Certes, se déguiser, masquer ou non, pour représenter soit le passé, tantôt surnaturel, tantôt héroïque, auquel se rattache le souvenir collectif d'un peuple, soit, au contraire, les gens du présent, pour s'en amuser par la moquerie ou la sympathie, c'est un mouvement naturel qui a créé, avec ou sans parole, quelques théâtres, terme grec encore. En tant de pays sans rapport entre eux, ni d'espace, ni de temps. Mais ni la forme, ni ce qu'elle peut porter de pensée ne seraient telles qu'elles sont, si n'y était intervenu, à un âge donné, le théâtre athénien légué par tradition écrite. Sakuntala, La vie est un songe, Hamlet, Andromaque, Faust même, si divers, ont des traits qu'ils n'auraient point s'y avait été autre, d'Eschyle à Sophocle et à Euripide, cette partie du culte rendu à Dionysos ou Bacchus. Un poème chanté, dansé, débité par un chœur de citoyens d'Athènes, plus deux ou trois acteurs, représentation d'un fragment de leur histoire légendaire. Quel trait ? La marche d'un temps aussi serré que possible, emmenant par le rythme graduel de paroles échangées un être humain, seul ou accompagné, vers un destin connu du spectateur. Imitation, assimilation, réaction ont contribué selon les circonstances à la genèse du nouveau. L'histoire en serait longue. En bref, on peut rappeler quelles figures d'hommes et de femmes s'obstinent à vivre dans la mémoire universelle renouvelée suivant chaque art d'époque qui furent grecs et tragiques. Prométhée, Édipe, Antigone, Électre, Médée, Phèdre. Et du grand duel de Quolibets, se terminant en un cortège licencieux dont la même Grèce fit aussi la comédie, que de traces restent dans le spectacle qui vise à faire rire. Dès ces revues aristophanesques où les hommes du jour étaient livrés à la risée démocratique, tel tableau rapide dressait un personnage de vie moyenne en son comportement quotidien. De quoi y déceler le travail d'observation curieuse de la vie qu'Euripide laissait à pousser aux détails variés chez Ménandre et les autres. Là, ce sont les Latins qui d'abord ont été truchement pour la modernité des siècles. Sans eux, qui peut imaginer la comédie telle que Molière l'a connue et la féconda ? Grec au départ, de partout, hier, aujourd'hui et demain. Mais Harpagon porte un nom grec. N'oublions donc pas ce qu'Athènes a créé qui se continue.
Il nous reste hélas trop peu de temps pour évoquer la Grèce contemporaine. Mais comment passer sous silence le grand moment de la guerre pour l'indépendance ? C'était le moment où l'âme grecque suscitait tous les héroïsmes, celui où Byron entendit son appel. Un romancier grec, Christos Xanthopoulos-Palamas, va se faire l'interprète de tous les Hellènes pour rendre hommage au grand poète qui mit sa vie au service de leur patrie.
La Grèce contemporaine, celle dont la liberté a été reconquise et forgée par sept ans de luttes héroïques et sanglantes de la guerre d'indépendance de 1821, apporte à la mémoire de Lord Byron un hommage plein d'admiration et de reconnaissance fervente. Byron vécut en poète, il est mort en soldat. Son œuvre et son action jaillissent de la même source. Il a du talent et de la vaillance dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il écrit. Ses vers et sa façon d'agir s'enchaînent et se complètent. Ils s'expliquent les uns par les autres. Lord Byron met son génie et son indomptable courage au service du non-conformisme le plus désintéressé et le plus pur. À l'âge de 22 ans, il quitte l'Angleterre pour voyager et élargir ses horizons. Il fait son premier séjour en Grèce en 1809. C'est à Athènes qu'il découvre l'âme de la Grèce captive mais insoumise. Il y reconnaît sa propre destinée. Le Childe Harold, un de ses plus beaux poèmes, est fait de désespoir et d'ardeur libératrice. Le poète en réalise en lui la contradiction tragique. Il se sent incapable de s'isoler du reste du monde pour chanter une liberté imaginaire ou illusoire. Son sort était lié à celui des autres. En homme de génie et en vrai poète qu'il était, il comprit que la liberté des autres devait l'intéresser au même titre que sa propre liberté, car de par le monde, la liberté est une et indivisible. En Italie, il s'intéresse au mouvement révolutionnaire de Carbonari. Puis, ayant appris à Pise que l'insurrection grecque faisait des progrès, il dit à ses amis « Je veux retourner en Grèce et il est possible que j'y meure. » Il retourna et il y mourut. Depuis le mois de mai 1823, il se prépare pour répondre à l'appel du devoir tel que la noblesse de sa nature le conçoit. Il liquide sa fortune et avec l'argent qu'il recueille, il achète des armes et des munitions. Il charge tout sur le brick Hercule et s'y embarque lui-même pour la Grèce. Après une traversée périlleuse à travers l'archipel en feu et une première étape dans les îles ioniennes, il se décide à se rendre à Missolonghi, où ils débarquent le 4 janvier 1824. Missolonghi étant des principaux centres de résistance dans la Grèce continentale, Byron se charge de mettre sur pied, d'organiser et d'équiper une force armée de 3000 hommes. Il mit au service de ce plan tout ce qu'il possédait. Il se met au travail avec passion. Cependant, la besogne était dure et les conditions de vie dans la ville assiégée furent pour sa santé une épreuve fatale. Il tombe malade, mais jusqu'au dernier moment, il ne cesse de travailler et de s'intéresser à la Grèce et au sort de la guerre. Fidèle à son idéal, fidèle à lui-même, Lord Byron expire à Missolonghi le 19 avril 1824. Il était alors âgé de 36 ans. Les Hellènes ont un vrai culte pour celui qui, venu pour les aider dans un des moments les plus critiques de leur histoire, tomba sur leur sol en héros. Le jour de son 36e anniversaire, Byron, qui tout entier en son entreprise guerrière avait cessé d'écrire, lut à ses amis ces quelques vers qu'il venait de tracer sur le papier et qui eussent pu être gravés sur sa tombe, tant il résume en un saisissant raccourci sa vie et son œuvre dont il savait l'approche conclusion.
Si tu regrettes ta jeunesse, pourquoi vivre? Le pays de l'honorable mort est ici. Marche au combat et donne ta vie. Cherche un tombeau de soldat, pour toi le meilleur. Puis regarde bien, choisis ton terrain et prends ton repos.
Que la Grèce soit immortelle, ni le peuple hellène, ni ses poètes n'en ont jamais douté. Les poèmes de Calvos, de Kostipalamas, de Cavafi ou de Sikelianos ont pu se succéder, mais c'est toujours la même foi en cette âme éternellement jeune, même dans ses ruines. Et nous tous qui ne cessons, par toute la terre, de nous enivrer de sa beauté, nous pourrions répéter les vers de Palamas.
Mais quel est donc ce cimetière qui sans cesse verdoie et resplendit, que jamais le soleil n'altère, qu'aucune pluie d'orage ne détruit? Mais quel est donc ce cimetière, ces siècles qui l'adorent, prosternés, que sont-ils donc? Mais quel est-il ce cimetière, dont les morts sont des dieux, et les tombeaux des Parthénons? Dans le cycle Les États-Unis de l'esprit, vous venez d'entendre sur la scène du monde.
Voici passer l'âme de la Grèce.
Une émission de Madeleine Paz et de Roman Kovalichko.
Qui vous a été présentée par Juliette Demestre et Jacques Torrance. Avec le concours de Lucienne Noblet, prise de son Pierre Le Sage, régie Jean Seroux.
C'est une production et réalisation Roman Kovalichko, assistée de Alain Jean Cosco.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la radiodiffusion nationale le 3 septembre 1947. Vous pouvez la réécouter en ligne et la télécharger sur le site franceculture.fr, à la page des Nuits de France Culture et sur l'application Radio France.